Alors bonjour à tous. Donc je suis particulièrement heureuse ce matin d'être devant vous. Alors en général je suis toujours contente, mais ce matin d'autant plus que c'est mon dernier dimanche avec vous avant quelque temps, pas le dernier dernier, mais avant quelques mois, puisque après la route serait un petit peu trop longue pour venir au culte parmi vous le dimanche matin. Et cela me fait donc très plaisir de lire la parole de Dieu avec vous une dernière fois avant la prochaine. Alors, je ne sais pas comment font les autres pasteurs, mais c'est vrai que quand j'ai dû préparer une prédication, ben voilà, il faut trouver soit un thème, soit un texte biblique. Et je ne sais pas vous expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, l'Esprit de Dieu parle et je suis toujours émerveillée parce que ce matin, j'avais choisi un thème, je pensais être conduite, et cela a été confirmé parce que Isabelle et moi ne nous sommes pas du tout consultés pour ce temps de culte ce matin, et j'ai été surprise et encore une fois émerveillée de voir qu'en fait elle avait amené le thème dont je voulais vous parler ce matin pendant la liturgie. Donc voilà, nous sommes déjà en route. Et j'ai donc choisi un texte dans l'Ancien Testament pour la prédication de ce matin qui se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 48, les versets 7 à 13 que je vous lis maintenant. Donc Jérémie chapitre 48, versets 7 à 13. Oui. Parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Kémosh partira en exil avec ses prêtres et ses chefs. Le dévastateur pénétrera dans chaque ville, aucune ne lui échappera. La vallée connaîtra la ruine et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. Ces villes deviendront des déserts inhabités. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kémosh, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Bethel, de l'objet de sa confiance. Jusqu'ici, parole du Seigneur. Alors, j'ai sélectionné ce passage à dessein. Et vous remarquerez que depuis le début du culte, nous avons écouté, lu, chanté à propos du mot confiance qui se retrouve au tout début et à la toute fin du passage que j'ai choisi. Et c'est donc sur ce sujet que j'aimerais partager quelques réflexions avec vous ce matin. Ici, il s'agit d'une prophétie du prophète Jérémie qu'il délivre à destination de Moab. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette prophétie est plutôt malheureuse. Ça se passe plutôt mal. En effet, Jérémie annonce l'exil et la chute de ce petit royaume qui jusqu'à maintenant s'en sortait plutôt bien. C'est ce qu'il précise d'ailleurs au verset 11, lorsqu'il précise que Moab était en paix depuis sa jeunesse. Alors, nous parlons de Moab, et ce nom vous est peut-être familier, mais un petit rappel biblique s'impose. En effet, quel est ce territoire? Alors Moab, tout d'abord, c'est le fils que Lot a eu avec sa fille aînée après s'être enivré, comme on le lit dans le livre de la Genèse au chapitre 19. Ce que nous dit Deutéronome chapitre 23 à propos du Moabite, c'est le maudit, celui qui n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu. Parce que les Moabites ont soudoyé le faux prophète Balaam aux dépens des Israélites. C'est aussi sur le territoire de Moab que se trouvent les deux villes connues de Sodome et Gomorre. Mais Moab, c'est là où Dieu a également souhaité renouveler son alliance avec le peuple hébreu par l'entremise de Moïse. On trouve cela aussi dans le livre du Deutéronome, chapitre 28. Et nous pouvons aussi penser à Ruth, la Moabite, qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, parce qu'elle avait fait de lui son Dieu et du peuple de sa belle-mère Naomi son propre peuple. Donc voilà ce qu'est Moab. Dans le contexte de l'Ancien Testament, comme les autres tribus, les Moabites ont connu des conflits, des batailles, des guerres, c'était assez courant, et des guerres y compris contre le peuple d'Israël. Et s'ils ne sont pas toujours ressortis victorieux, ils ont pu néanmoins conserver leur petit territoire, dominer les Hébreux pendant des siècles, puisqu'à la période de la prophétie de Jérémie, le peuple hébreu se trouve en exil à Babylone, et finalement être un petit royaume plutôt prospère. Donc tout allait plutôt bien. Et c'est dans ce contexte particulier où tout allait plutôt bien que Jérémie leur fait cette terrible prophétie. Cette annonce de ruine, de destruction et d'exil. Je relis le verset 7. « Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Kemosh partira en exil avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur pénétrera dans chaque ville. Aucune ne lui échappera. La vallée connaîtra la ruine. » Et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Petite précision, Kemosh, c'est une divinité païenne du royaume de Moab. Donc Kemosh partira lui aussi en exil avec les Moabites, tous ses chefs et tous ses prêtres. La suite du passage nous montre que Moab ne semble pouvoir s'échapper de cette destruction terrible qu'en s'envolant, les pieds restant inutiles pour pouvoir courir et s'enfuir. Ce verset n'est pas sans rappeler ce que le diable dit à Jésus lorsqu'il essaie de le tenter dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 en le plaçant au sommet du temple et en lui demandant de se jeter en bas pour voir si les mains des anges, selon la promesse du psaume 91, viendront le récupérer, l'empêchant ainsi de périr. Notons que dans les deux cas, ni les ailes pour Moab, ni les mains des anges pour Jésus n'ont été la véritable réponse à la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Alors on peut s'interroger sur la raison de cette destruction et de cet exil du royaume de Moab et de ses habitants et se demander qu'ont-ils fait pour mériter cela, comme dirait l'autre. La réponse nous est apportée au verset 7. « Parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris. » La confiance. C'est de cela dont il s'agit. Le dictionnaire donne à ce mot les synonymes suivants. Assurance, espérance, sécurité et même foi. Le dictionnaire Le Robert parle aussi de foi. Oui, parce que ton assurance, ton espérance, ta sécurité, ta foi était fondée sur tes trésors, tes réalisations, tes idoles, tes succès, alors toi aussi, tu seras pris et tu perdras même tout ce que tu avais acquis ou construit parce que c'est là où tu as placé ta confiance, ce sont ces choses-là
qui sont l'objet de ta foi. Voilà ce que dit Jérémie à Moab. Cette semaine, j'ai écouté à la radio un débat où un journaliste a dit la chose suivante. Le sentiment de confiance est ce qui fait vivre notre démocratie. On parle beaucoup de démocratie à l'heure actuelle. Isabelle l'a esquissé dans l'une de ses prières. À l'heure où la sécurité publique, mais aussi une certaine sécurité matérielle, devrait être assurée par des gouvernements et des politiques auxquels nous devons, somme toute, accorder notre confiance, à l'heure où le monde essaie de nous faire croire que notre épanouissement, notre réussite, notre reconnaissance et donc quelque part notre existence tout entière passe avant tout par le renforcement de la confiance en soi, de la confiance en nous-mêmes. Ce matin, je voudrais nous amener chacune et chacun à nous demander en qui et en quoi plaçons-nous notre confiance pour notre propre vie, ainsi que celle de nos proches, mais également pour le fonctionnement de ce monde. Alors ici, il ne s'agit pas de ne plus accorder notre confiance à d'autres pour le quotidien. En effet, sans la confiance, il serait difficile d'envisager l'existence même des relations humaines. C'est la base. En effet, que serait notre vie personnelle et collective si nous n'avions pas confiance en nos parents, en nos enfants, en nos conjoints, nos amis, nos collègues, les frères et sœurs de l'Église, les pasteurs? Il faut un minimum. Qu'en serait-il si nous n'avions pas confiance dans le pilote qui conduit l'avion dans lequel on monte, ou le chirurgien chargé de nous opérer, le dentiste chargé de nous enlever une dent, les politiques qui sont en charge de la conduite de la nation? Ça serait compliqué. Ici, ce que Dieu reproche aux Moabites, à travers la bouche de Jérémie, c'est de placer toute sa confiance, toute son assurance, toute son espérance dans ce qu'ils possèdent, dans ce qu'ils font eux-mêmes et dans leurs propres idoles fabriquées. Dans l'Écriture, ce reproche n'est pas réservé à Moab. C'est aussi ce qui est reproché aux riches qui ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse dans le psaume 49. C'est aussi ce qui est reproché par Dieu à son propre peuple, par la bouche du même Jérémie, quelques chapitres plus tôt, le chapitre 13 que nous avons lu, je crois, un peu plus tôt dans la liturgie. L'Éternel déclare, je les disperserai parce que tu m'as oublié, que tu as mis ta confiance dans des faussetés. Ici, l'Éternel place les Moabites devant leurs responsabilités. Il leur dit, vous avez choisi de placer votre confiance dans vos réalisations, vos trésors, votre divinité Kémosh, et non en moi, l'Éternel. Vous avez préféré vous fier à des choses corruptibles, éphémères, sans pouvoir réel ni fiabilité. Alors le résultat sera lui aussi éphémère, incertain, corruptible. J'ai rappelé un peu plus tôt qui était Moab pour montrer que ce que Dieu sanctionne ici, c'est avant tout une disposition de cœur. C'est ce que nous voyons un petit peu plus tard dans le chapitre 48 au verset 29 lorsque Jérémie dit de Moab « Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil, son arrogance et son cœur vaniteux. » Voilà la disposition de cœur de Moab. Et c'est cette disposition de cœur-là, vaniteux, arrogant, orgueilleux, qui l'a conduit à placer sa confiance dans ses trésors, ses réalisations, ses succès et ses idoles. Et c'est pourquoi Jérémie précise au verset 10 de notre passage « Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence ». Ici, le mot « négligence » ne signifie pas tant « maladresse » ou « légèreté » que « fausseté » avec « tromperie » et « manque de sincérité ». Voilà la disposition de cœur de Moab et voilà pourquoi il ne place pas toute sa confiance en l'Éternel mais préfère la placer dans ses propres réalisations, ses propres richesses, ses propres créations. Si Dieu peut accepter le « je ne peux pas », il ne saurait accepter le « je ne veux pas ». Le zèle et même le courage demandé par l'Éternel est illustré dans la deuxième partie du verset que je viens de lire lorsqu'il dit « Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang ». Alors cette image peut nous sembler forte. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans un contexte un peu guerrier et donc avec un vocabulaire et des images symboliques qui s'y rattachent. Mais cela revient à dire que Dieu nous a armés, équipés, pour exécuter pleinement son jugement, même celui sanctionné par une peine capitale, une peine de sang. Il s'agit d'un véritable combat que l'Éternel mène et il attend de ses serviteurs qu'ils soient actifs, à ses côtés, sans peur de s'engager pour lui, sans hésiter ni être tiède. Cela contraste avec la suite du passage qui décrit la paix dans laquelle s'est trouvé Moab jusqu'à maintenant, depuis sa jeunesse. Un repos, mais à quel prix ? Celui du silence, de l'inaction, voire même de la compromission. Paradoxalement, malgré sa prospérité, quelque chose d'essentiel avait manqué à Moab. De véritables épreuves, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et c'est le sens du verset 11, lorsque Jérémie dit « Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre, il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. » La comparaison avec le vin, que l'on retrouve un peu plus loin dans ce même chapitre de Jérémie, s'explique de la façon suivante. Le vin nouveau, alors dans la Bible, le vin nouveau, c'est le bon vin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le vin nouveau, c'est le bon vin. Et ce vin doit être transvasé de tonneau en tonneau jusqu'à ce qu'il devienne clair, dépouillé, laissant tous les dépôts au fond du tonneau. Le transvasement du vin est donc nécessaire car un vin laissé sur sa lie ou sur ses dépôts garde en s'en imprégnant de plus en plus le mauvais goût qu'il perdrait s'il était transvasé. La lie ici correspond à l'esprit d'orgueil, d'arrogance, de vanité et d'incrédulité qui était la disposition de cœur du peuple de Moab que j'ai cité tout à l'heure. Et il est indiqué que Moab n'avait pas subi ce traitement, n'avait pas connu ce transvasement. Il avait été bien tranquille, en repos, sur sa lie, depuis sa jeunesse. Il n'avait pas appris, par des circonstances difficiles, à se connaître, son cœur, ses réactions, et donc aussi à connaître le Dieu véritable et son attachement à lui. Il n'a pas connu ce transvasement et ainsi n'a pas pu perdre son mauvais goût d'origine. La nécessité de ce transvasement, là encore, n'est d'ailleurs pas réservée à Moab. C'est aussi ce résultat que l'Éternel cherche à atteindre, à réaliser avec son propre peuple en l'envoyant en exil à Babylone. C'était l'objectif. Cette notion de transvasement rappelle aussi un autre verset de l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et le verset 17 que je lis. on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres ainsi se conservent. Oui, le Seigneur sait ce qu'il fait quand il nous transvase, quand il nous remue, lorsqu'il nous arrache à notre repos, à notre paix et notre sécurité apparente et relative, notre nonchalance, notre paresse, notre négligence dans les deux sens du terme. Ces transvasements, parfois désagréables, sont destinés à nous faire perdre chaque fois un peu plus de notre mauvais goût, celui qui vient de notre propre volonté, de notre prétention, de notre confiance exclusive en nous-mêmes, pour la placer au contraire dans celui qui est tout-puissant, loyal et fidèle. Aujourd'hui, on parlerait de sortir de sa zone de confort, de chamboulement, qui, s'ils sont susceptibles de mettre à l'épreuve notre confiance en Dieu, la renforce aussi. Alors ces transvasements qui n'ont pas été acceptés ou effectués de même par les Moabites, l'Éternel va les leur imposer en envoyant des hommes pour les transvaser, mais avec brutalité, comme on le lit au verset 12. Voilà la conséquence de la résistance du royaume de Moab à ce transvasement volontaire, cette résistance qui sera réduite à néant pour faire naître la honte dans ce petit royaume, la honte de leur divinité Kémosh, comme les Israélites eurent honte de Bethel, là où se trouvait le sanctuaire principal du culte du veau d'or, institué par Jéroboam, comme nous pouvons le lire dans le premier livre des Rois. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour son peuple. Il ne souhaite pas avoir un peuple honteux. Et c'est pourquoi, comme le rappelle Paul dans son épître aux Romains, chapitre 9, verset 33, il a mis dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. La question qui nous est donc posée à travers ce passage est la suivante. En qui je place ma confiance pour ma vie ainsi que la destinée de ce monde? En des choses ou des personnes qui sont limitées, qui peuvent nous décevoir ou même nous trahir et qui peuvent devenir nos petites idoles à nous sans que l'on s'en aperçoive vraiment? Ou bien en celui qui peut tout? Celui qui tient ses promesses, celui qui souhaite notre bien, même si nous ne savons pas toujours ce que cela veut dire pour nous. Celui qui ne nous trahit pas, le berger qui n'abandonne pas ses brebis quand survient le danger. Celui qui propose de nous transvaser avec amour et sans brutalité. Je vous invite à relire chez vous le psaume 46, dont Monique nous avait fait la lecture dimanche passé. Voilà pourquoi nous pouvons et nous devons placer notre confiance, notre espérance, notre assurance, notre sécurité, notre foi en l'Éternel en tout et pour tout. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous proclamons à chaque fois que nous confessons notre foi comme nous l'avons fait tout à l'heure? Confession et confiance ont la même racine et quelque part la même signification. C'est l'action de se confier, de se fier en l'Éternel. Alors si c'est plutôt facile à dire, pourquoi est-ce parfois si difficile de le vivre concrètement dans nos vies? En effet, si nous voulons être sincères, placer notre confiance en Dieu pour les moindres détails de notre vie, présente et à venir, demeure un défi pour nous. Et le doute peut s'installer, les questions peuvent arriver. L'impatience aussi peut survenir. En effet, avoir confiance en ce Dieu que nous ne voyons pas forcément. Ce Dieu qui semble parfois bien silencieux à nos demandes et sourd à nos complaintes. Ce Dieu qui paraît même s'être retiré de ce monde en détresse pour certains. Et pourtant, nous avons lu et vu ce que Dieu a déjà fait pour son peuple. Nous le savons, mais comme le peuple hébreu, malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel votre Dieu qui marchait devant vous sur la route, nous dit le chapitre 1 du livre de Deutéronome, verset 32. C'est beau cette image de ce Dieu qui marche devant nous sur la route. Ne pas faire pleinement confiance à Dieu, c'est ainsi se priver volontairement des bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Même si ces bénédictions semblent lointaines, ces réponses et ces exaucements semblent incertains, tout cela est bien là, en réserve. Confiance est synonyme d'espérance, de persévérance, d'assurance. L'assurance que Dieu accomplit ses promesses. Et pour nous encourager, quand nous sommes peut-être un peu bousculés par Dieu, je propose de voir l'issue qui a été finalement réservée à Moab et que nous découvrons à la toute fin de ce chapitre 48. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent, épuisés. Mais un feu sort de Hesbon, une flamme sort du milieu de Sion. Elle dévore les tempes de Moab et le crâne de ses hommes tapageurs. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh est perdu. Oui, tes fils et tes filles sont faits prisonniers. Mais le chapitre ne s'arrête pas là. Le dernier verset dit ceci. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab, déclare l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs, nous dit le psaume 40, verset 5. Les menteurs et les orgueilleux, ce sont bien sûr les autres, mais aussi un peu nous-mêmes, lorsque nous pensons pouvoir nous en sortir seuls, par nos propres forces, nos capacités, nos propres moyens, notre propre mérite. L'orgueil dénoncé par Jérémie à propos de Moab n'est pas tant une attitude arrogante ou méprisante que le contraire de l'humilité. L'humilité qui est cette attitude qui nous fait reconnaître notre besoin du Père et de nous en remettre à lui pour tous les aspects de notre vie. Et c'est pourquoi le psaume 78 nous montre que Dieu est irrité lorsque nous ne lui faisons pas confiance. Ce que nous pouvons comprendre à vue humaine, parce que nous sommes nous-mêmes bien vexés quand quelqu'un ne nous fait pas confiance. Quand nous regardons autour de nous le monde qui nous entoure, les événements dramatiques qui s'y déroulent, quand nous regardons la vie de nos proches qui peut ressembler parfois à un long chemin de croix ou de douleur, quand nous regardons notre propre vie, ou peut-être certains d'entre nous traversent des situations difficiles, des épreuves, des questionnements, des doutes, et ne voient rien venir, se débattant de toutes leurs forces, faisant appel à tous leurs efforts, leur créativité, s'épuisant, se décourageant face à des solutions qu'ils ne voient pas. C'est dans de telles situations, au contraire, que nous devrions nous répéter avec confiance ce beau verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme ?» Si, comme l'a dit cette journaliste que j'ai citée plus tôt, le sentiment de confiance est ce qui fait vivre notre démocratie, je dirais à mon tour que c'est cette confiance en notre Dieu qui fait aussi vivre notre foi en lui. Amen.